Et attention, profusion de littérature concernant Thomas Tourelle ces dernières semaines. Et oui, c'est la mode Tourelle, hein, ça marche, ça cartonne. Il faut dire que c'est devenu un personnage central du football français. Il y a deux bouquins ces derniers jours ou ces jours prochains qui sortent concernant Thomas Tourelle. Suite Polo, l'énigme Tourelle chez Hugo Sport, qui sort la semaine prochaine. Et il y en a un autre qui s'appelle Thomas Tourelle, faire grandir Paris chez Marabout. Voilà, écrit par Marcus Kaufmann. Donc, en tout cas, voilà, Polo va pouvoir se plonger, nous plonger dans les arcanes de la vie de Thomas Tourelle. Déjà, est-ce que tu as été étonné, Polo, de le voir arriver à Paris?
Alors, étonné, oui, quelque part. Mais en fait, quand il a été nommé, moi, j'ai eu des étoiles dans les yeux, évidemment, parce que je me disais, ça, quand même, c'est génial. Et puis, en plus, bon, je suis quand même un amoureux du personnage et de ce qu'il avait fait en Allemagne. Donc, évidemment, ça m'a intéressé. Mais tout de suite, j'ai pris un parpaing, quoi. J'ai pris un parpaing dans la tête et c'est, excusez-moi de dire ça, c'est quand même l'état de la presse française qui ne connaît strictement pas le personnage, rien du tout, un peu comme si l'Allemagne était dans le triangle des Bermudes, c'était assez sympa quoi. Enfin, au bout d'un moment,
alors,
tu vois,
on reconnaît bien mais, Polo avec non, mais, l'Allemagne qui est réservée, on connaît pas.
Donc au bout d'un moment, non mais tu vois, c'est
mais
un
qu'est-ce
peu...
Mais qu'est-ce qui par peu... exemple t'a choqué au départ?
Mais par exemple, tu vois, ah ouais, la rigueur, c'est un Allemand et on va avoir la rigueur. Ah oui, il s'est engueulé.
Il y a les clichés, alors.
Ouais, tous les clichés.
D'accord.
Oui, il s'est engueulé avec tous ses présidents en Allemagne et la notion de président en Allemagne est très différente de celle qui est dans celle en France. Donc, donc on n'a pas intégré ça en France. Il a pas de palmarès. Donc en fait, je me suis dit, mais attends, vous avez eu la chance à Paris d'avoir, pour moi, le plus grand entraîneur de sa génération, Ancelotti. Il a été maltraité dans tous les sens.
Je crois que t'allais parler de Laurent Blanc.
Ensuite il y a eu la filière française, tu vois, avec Laurent Blanc. Ensuite il y a eu un Espagnol, ensuite il y a l'Allemand et tout ça.
Après il y a eu un Espagnol qui avait gagné 3 coupes d'Europe,
oui,
mais c'était pas suffisant.
Mais c'était pas suffisant. Et puis là il y a un Allemand, mais c'est qui ce mec-là, on le connaît pas.
Je veux dire que le foot français n'a pas le sens de l'accueil.
Mais c'est pas, non, je crois pas. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont pas. Mais je vais te donner un autre exemple. Lorsque Lucien Favre était à Nice, 6 mois après ce qu'il faisait à Nice dans la première saison, il y avait encore des articles. Mais qui est Lucien Favre? Au bout d'un moment, tu vois, c'est quand même un peu fatigant de pas comprendre ce qui se passe un peu à l'étranger.
Je te suis, hein. Mais peut-être que quand un étranger débarque en Allemagne, en Angleterre ou en Espagne, on le voit aussi comme ça en disant, bah, tu vois, regarde Puel en Angleterre.
En Angleterre, ils ont que des étrangers. Non, mais ils accueillent bien.
Regarde Wenger quand il débarque à Arsenal.
Non mais Thomas Tourelle,
scène où
le cas de Thomas Tourelle est vachement intéressant parce que un an avant il est dans une shortlist pour les remplaçants du Barça. D'accord. Donc c'est-à-dire que le Barça, qui est évidemment le plus petit club du monde, sait qui est Thomas Tourelle, mais en France,
on
a un palmarès merveilleux, on sait tout sur tout, et ben on sait pas qui est Thomas Tourelle. Donc au bout d'un moment, tu vois, c'est ça. Donc je me prends le parpaing le soir, parce que j'ai écouté quasiment toutes les émissions et tout ça, et je me suis dit c'est pas gagné quand même.
Dis-nous pourquoi. Alors justement, donc il vient. Ouais. Pourquoi il n'entre pas dans les clichés? D'où il vient? Comment il évolue? Est-ce qu'il s'inscrit d'abord dans ce qu'on a appelé?
Ouais.
Dont tu nous as régulièrement parlé quand t'étais dans l'after, ce renouveau allemand, une nouvelle pensée dans le football. C'est quoi son football? D'où il vient ce mec-là?
Bon, bah déjà il est né en Bavière à Krumbach, même si c'est un Swab comme on dit, et les Swabs et les Bavarois c'est pas exactement la même chose. En tout cas géographiquement parlant et administrativement parlant c'est un Bavarois. Ce qui est intéressant.
Donc il est arrogant, cultivé, élitiste comme un Bavarois.
Ouais, il y a beaucoup de choses là-dessus, mais alors son arrogance, alors. Si tu veux, moi le livre, ce qui m'a intéressé dans le livre, c'est un peu de déconstruire tout ce qui a été dit sur Thomas Tourelle en Allemagne. C'est-à-dire que t'es en France, tu dis c'est qui Thomas Tourelle, super compétent, mais une tête de chien, pour simplifier. Je simplifie au maximum. Et en fait, quand tu travailles là-dessus, quand tu travailles sur le personnage et que tu fais des interviews sur des personnes, donc j'en ai fait à peu près une dizaine, donc ça va aussi bien de l'actuel manager de Schalke, donc Christian Heidel, qui était enfin celui qui l'a lancé en Bundesliga à Mayence. Ça a été des journalistes de la Frankfurter Allgemeine Zeitung qui l'ont suivi pendant 5 ans à Mayence. Ça a été des journalistes du Die Zeit, qui est quand même un journal élitiste en allemand, et c'est très intéressant que tu dises l'élitisme de Thomas Tourelle à ce niveau-là. Et en fait, tous ne disent pas la même chose sur Thomas Tourelle et c'est beaucoup plus complexe. Donc le personnage, qu'est-ce que c'est? Pour simplifier, c'est un gamin comme tout le monde qui est doué au football, qui monte les étapes, qui réussit à devenir professionnel. Et le problème, c'est qu'il est victime d'une grave blessure à 24 ans. Il est forcé, son rêve de jouer en Bundesliga.
Mais c'est quoi sa carrière pro? Parce que c'est pas
sa carrière pro.
C'est pas grand chose. En fait, il signe en seconde division Stuttgart Kickers, où il jouera entre 92 et 94. Il jouera surtout 8 matchs. à l'époque. Alors, encore une fois, on est entre le Bade-Württemberg et la Bavière, et donc le Bade-Württemberg, pour simplifier, c'est le VfB Stuttgart, et tu as le Bayern en Bavière, pour simplifier, et tu as quand même un autre club qui s'appelle les Stuttgarter Kickers, qui a quand même un certain nom, au moins dans la région et dans le football allemand, et donc il signe là-bas, mais il va jouer que 8 matchs. Il y avait, à l'époque, dans cette équipe, il y avait Freddy Bobic, par exemple, qui n'était pas encore connu, qui deviendra...
Il deviendra
exactement.
Dans l'autre club.
Et donc en fait, il joue que huit matchs en seconde division. Ça va pas bien se passer. Il va partir finalement se relancer, ce qui était à l'époque pas encore une division professionnelle, à Ulm, où il va rencontrer un certain Ralf Rangnick, qui lui est en train de
d'amorcer. Il y a quand même beaucoup de choses qui ramènent à Ralf Rangnick dans le foot allemand. On a l'impression que les mecs qui deviennent entraîneurs c'est le professeur, quoi. Rangnick.
C'est le football professeur. Alors il y a une anecdote par rapport à ça, c'est qu'il, alors j'en ai pas parlé, je le regrette un peu, j'aurais peut-être dû le dire dans le livre. En 98, en fait, il faut se rendre compte, Ralf Rangnick, il est amoureux de qui? Il est amoureux de Lobanovski, d'Arrigo Sacchi et d'Arsène Wenger. Donc les Allemands, c'est pas compliqué, ils sont champions du monde encore en 90, c'est la crise qui arrive petit à petit. Ils sont encore champions d'Europe 96, avec notamment, grâce notamment à la réunification et donc Matthias Sammer, etc. Et puis après, c'est la grande crise, et il y a un gars qui est en avance sur tout le monde en Allemagne, qui s'appelle Ralf Rangnick, et lui, il voit ce que fait Arrigo Sacchi au Milan AC, et donc il amène la zone en Allemagne, ce qui est pas du tout connu. Mmh. Et donc, les Allemands, si tu dis, mais c'est quoi cette histoire? Et en fait, Ralf Rangnick amorce toute cette révolution footballistique du football allemand.
Donc lui, c'est un enfant de ça, Tuchel.
Oui, mais alors si on peut dire enfant, on peut dire qu'il a fréquenté. Et ce qui est très intéressant, c'est de savoir, est-ce que c'est un ami de Ralf Rangnick? Parce qu'on pourrait le dire, parce que Ralf Rangnick l'a aidé, par exemple, pour s'occuper des jeunes et le nommer à Stuttgart, parce que à l'époque, enfin après Ulm, évidemment, Ralf Rangnick devient entraîneur de Stuttgart, et donc il dit à Thomas Tuchel, qui est forcé d'arrêter sa carrière, viens t'occuper des jeunes, je sais que t'es doué pour ça et tout ça. Et un jour, lors de la première confrontation en Bundesliga entre Thomas Tuchel et Ralf Rangnick, le journal Bild, évidemment, qui n'est pas avare en petites polémiques, lui demande si Ralf Rangnick est son ami. Il dit non, on n'est pas amis, quoi. C'est-à-dire que Thomas Tuchel est quelqu'un qui dit
une certaine froideur
par rapport à ça. Donc c'est très intéressant à ce niveau-là, le personnage, comment il se construit. Mais c'est surtout, et c'est ce que j'essaie de montrer dans le livre, c'est pas quelqu'un d'unique. C'est quelqu'un qui a bénéficié de la révolution footballistique allemande. C'est-à-dire que, pour simplifier, les centres de formation en Allemagne sont soit nuls, soit inexistants. Et donc, on décide de mettre le paquet dans les centres de formation en regardant par exemple ce qui se fait en France, mais pas que, on en voit aux Pays-Bas, en Italie, en Suisse, notamment en Amérique latine, et se créent des centres de formation un peu partout qui ont besoin d'entraîneurs. Mmh. Et donc, ils bénéficient de cet appel d'air, parce que ça crée un besoin d'entraîneurs un peu partout en Allemagne, des gars qui n'avaient pas 300, 400 matchs de Bundesliga derrière eux. Et donc, lui, il arrive avec un autre logiciel, en fait. Il n'est pas du tout, comme le dit très bien Christian Heidel, moi, les entraîneurs allemands, donc l'ancienne génération qui ont été virés 4-5 fois, ça ne m'intéresse pas du tout, je veux des gens qui soient créatifs.
Et à quel moment, ce mec-là, les gens en Allemagne se sont dit, on a peut-être un futur grand entraîneur? À quel moment il a laissé le début d'une trace où on s'est dit, ce gars-là, il a quelque chose en lui?
Déjà, il a un parcours extrêmement étrange par rapport aux autres. C'est que, par exemple, dans la saison... donc, il est nommé au centre de formation des U19 à Mayence. Et dès la première année où il récupère le centre de formation, et ben, boum, il gagne le championnat des U19.
Et ça marque les esprits. Ça, on est au courant de ça en Allemagne.
Parce qu'on est en plein dans la révolution, on se dit ça passe par la formation, ça passe par les jeunes, etc. Et surtout que Mayence n'est pas réputé pour être un grand centre de formation.
Ouais,
ils vont tous à Dortmund.
Attends, je vais te dire un truc qui compte aussi, parce que à ce moment-là, il est quand même très jeune.
Oui, mais enfin, il est jeune, il a 25-26 ans.
Bah,
c'est un entraîneur jeune.
Par rapport.
Oui, mais même les entraîneurs jeunes qui réussissent, ceux qui sont installés,
on est d'accord.
Ils ont peut-être allés entre 30 et 40 ou la quarantaine, ils n'ont pas 25, c'est jeune.
On est d'accord. Donc il est repéré à l'époque par Volker Kersting, qui est, on va dire, le pape du centre de formation de Mayence. Et donc dès la première année, il est champion. Il y a Schürrle notamment dans l'équipe à l'époque, il est avec lui. Et donc, il se passe quelque chose, il prépare sa deuxième saison chez les U19, et là il reçoit un appel de Christian Heidel, donc qui est le manager de Mayence.
Il avait déjà l'allure un peu l'étudiant
il avait toujours, alors c'est ça qui est vachement intéressant, c'est qu'en fait tu penses que c'est tout sauf un entraîneur. À chaque fois que tu le vois, le mec, c'est un intellectuel, pour simplifier. Mmh. Cheveux mi-longs, jean basket,
il se bat. C'est vrai qu'il fait un prof de maths.
Et, non, mais c'est un peu ça.
C'est vrai.
Et comme il a, comme il est diplômé.
Non, mais il a une allure. Il a une allure, un petit peu différent. Il a une forme de charisme. Et c'est un petit peu différent.
Et Idle l'appelle chez lui, il dit, bon, écoute, demain, si tu veux bien, t'es l'entraîneur de l'équipe première à Mayence. Ce qui ne s'était jamais fait. Mmh. C'est-à-dire qu'on ne passe pas des U19 à la Bundesliga d'un seul coup.
D'un coup, ouais.
Et là, évidemment, le football allemand,
mais là, on est après le passage de Klopp à Mayence.
Ah oui. On est après, oui. C'est-à-dire que oui, on est après. C'est-à-dire qu'en
fait, ce qui nous vaudra cette espèce de fausse filiation entre les deux, dont il faudra qu'on reparle.
Ouais. On va essayer de simplifier. Klopp est coach à Mayence entre 2001 et 2008. Je simplifie. Il me pointe sur la carte Mayence dans le football allemand. C'est ce qu'a fait Jürgen Klopp en permettant à Mayence d'arriver pour la première fois en Bundesliga. Tuchel fait quelque chose de très différent pendant 5 ans. Il va installer Mayence en Bundesliga. Mmh. Et donc, il redescend pas, etc. Ce qu'a fait Jürgen Klopp. Jürgen Klopp est redescendu en seconde division. Et il va qualifier Mayence pour deux fois pour l'Europa League, notamment. Ce qui est très intéressant, c'est que tout le monde voit ça et dit, c'est qui cet entraîneur? On le connaît pas. Tout le monde s'attendait à avoir un entraîneur, un ancien ou ce que tu veux. Et là, tu vois, bonjour.
Autour
et
à gueule.
Oui, non, c'est un peu ça.
Félix Magath.
Surtout que là, si tu me dis qu'il a fait qu'un an avec les U19, donc il est entraîneur de Mayence, de l'équipe une professionnelle à 27 ans, là.
C'est ça, attends, 73, 2009, 27 et 9, 36.
À 36, ça reste jeune pour entraîner
ça,
en
Bundesliga. Ça reste extrêmement jeune pour être un entraîneur.
Oui, oui.
Et surtout, ensuite, donc, et attends, ce que j'ai oublié de dire, ce qui est quand même très très important, c'est qu'il est nommé entraîneur à Mayence une semaine avant le début de la Bundesliga parce que Christian Eidl décide de virer l'ancien entraîneur qui est devenu, qui avait fait monter l'équipe en première division. Parce qu'il y avait énormément de problèmes au sein de l'équipe. Et une semaine avant le début de la Bundesliga, il décide de virer le coach et il met Tuchel à la place. Évidemment, scandale, mais c'est quoi cette histoire? Et puis, premier match, c'est Leverkusen qui se pointe. C'est Leverkusen de Jupp Heynckes. Il y a que les internationaux dans l'équipe, etc. C'est d'ailleurs l'une des plus belles périodes dans le jeu de Leverkusen des 20-25 dernières années. Et là, il fait un match extraordinaire. Il y a 2-2. Et tout le monde a bien vu qu'il se passait quelque chose. Ce qui me semble très important et que m'a raconté le journaliste qui a suivi Thomas Tuchel pendant 5 ans, c'est qu'il a pas joué au petit chef quand il est devenu coach. Dans les premiers entraînements, il a juste demandé à faire des petits exercices de cadet à son équipe de professionnels. Passez-vous juste la balle comme ça entre vous, juste parce que lui, ça lui permettait de passer entre les joueurs pour apprendre les noms, pour discuter, mais qui t'es, comment t'as envie de jouer, et ceci et cela. C'est très intéressant, c'est que les mecs, ils disent bon, bah voilà.
Est-ce qu'il est dogmatique? Il a des idées? Non, c'est un mec qui.
Si, il sait exactement ce qu'il veut, mais pour moi, alors encore une fois, c'est Christian Eidl qui le dit. Il dit, moi, j'ai des entraîneurs qui sont super intelligent, ils sont super intelligents, c'est ce qu'ils recherchent. Il a eu Klopp, et il a eu Thomas Tuchel. Il dit, ce sont des gens qui sont au-dessus, et en plus, ce qui est très intéressant avec eux, c'est qu'ils n'ont pas besoin de directeur sportif. Tu les laisses faire.
Donc, tu veux dire ce qui se passe avec Antero Henrique, là, t'es pas étonné?
Ah, mais je suis pas du tout étonné ce qui s'est passé.
Il a eu Zorc comme directeur sportif.
Mais justement, ça s'est très mal passé.
Il faudra qu'on en parle après, alors.
C'est Zorc, c'est extraordinaire, ce qu'il fait. Il y a une anecdote, d'ailleurs, que m'a raconté quelqu'un qui est très proche de Dortmund, comme quoi, un jour, il est tellement énervé par le travail de Zorc, donc il est le directeur sportif de Dortmund, et il lui dit, et en fait, il veut l'envoyer à son agence qui pense de Zorc, et il se trompe, et il l'envoie à Zorc.
Par SMS?
Voilà.
Ouais, merde.
Alors là,
ça c'est cool.
Ça, donc, la relation.